Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Chaque jour, les autorités de santé dressent le bilan des victimes du coronavirus en milieu hospitalier. Dans le décompte du jeudi 26 mars, Julie, 16 ans, emportée par la maladie la veille à l'hôpital Necker à Paris. Aujourd'hui dans Code Source, un patient qui vient de sortir de réanimation témoigne pour alerter sur le Covid-19 et pour rendre hommage au personnel soignant. Claudia Prolongeau.
Patrick est un miraculé. Professeur de français et d'histoire géo dans un lycée de Strasbourg depuis 2 ans, il est sorti de l'hôpital mardi 24 mars dans l'après-midi. Je l'ai eu par téléphone, quelques heures après son retour chez lui. Il n'en revenait toujours pas d'être sorti de là, mais aussi de s'être retrouvé victime de ce coronavirus dont il avait entendu parler pour la première fois au mois de janvier.
J'ai 51 ans, je suis enseignant... Je suis savoyard d'origine. J'ai entendu parler de la maladie pour la première fois, je pense, mi-janvier. Et après, un peu plus intensément, en février.
Vous aviez déjà eu peur de mourir avant ?
J'habitais à Paris au moment des attentats. Une semaine après les attentats du Bataclan, j'ai voulu aider une jeune femme dans le métro qui était dans une situation particulièrement difficile. C'était très tard, on était 3, son agresseur, elle et moi. Elle a pu partir et après, son agresseur m'a fait comprendre que j'allais mourir. Et il a sorti une lame de, je pense, entre 20 à 25 cm de sa manche. Et je me suis dit, waouh, waouh, waouh. J'ai parlé très, 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 très fort. J'ai marché très calmement, je voulais pas qu'il pense que j'étais lâche. Et il m'a pas suivi et cette nuit-là, j'ai rien dormi. Et je me suis décidé, en fait, à demander ma mutation à Strasbourg.
Et comment vous êtes devenu professeur ? C'était une vocation depuis toujours ?
Non, j'ai eu plusieurs fonctions, notamment dans la communication, ce que je faisais à New York. J'ai essayé de rentrer en France. Et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Et je sais qu'on m'a toujours dit que quand j'expliquais les choses, j'y mettais du cœur, c'était assez clair, donc J'ai passé le concours, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu du premier coup, et puis je m'éclate dans mon métier que j'aime particulièrement. J'ai d'ailleurs prévenu, puisqu'on parle de ça, j'ai prévenu chacun de mes élèves et les parents d'élèves de ma situation, parce que je me faisais du souci, j'ai eu peur peut-être de leur avoir transmis quelque chose, et j'ai eu des témoignages des familles vraiment très très beaux, de beaucoup de mes élèves, des élèves de seconde, des élèves de BTS, des élèves de première, des élèves de terminale. Et puis aussi, je tiens à dire que dans mon établissement, où on est 150 profs, j'ai eu des témoignages d'affection, d'amitié. Moi, je connais pas tout le monde. C'est que ce n'est que ma deuxième année dans ce lycée. Des témoignages d'une beauté, enfin, c'est chouette, quoi.
Le 5 mars, divers articles de presse relaient qu'un rassemblement évangélique a eu lieu du 17 au 24 février à Mulhouse, à une centaine de kilomètres de Strasbourg, et qu'il a probablement propagé le coronavirus en France. 2500 fidèles, venus de la France entière, mais aussi de la Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse, se sont retrouvés pour prier ensemble avant de repartir chez eux. Très vite, les cas dans le Grand Est se sont multipliés. Et le 6 mars, c'est au tour de Patrick de ressentir les premiers symptômes.
J'étais en cours, je faisais passer une épreuve à mes élèves de BTS, une épreuve de français, blanche. Et j'ai pas l'habitude de laisser mes élèves pour aller aux toilettes. Et là, il fallait absolument que j'y aille. Et il y avait quelqu'un d'autre qui surveillait avec moi. Et j'ai compris que j'étais pas bien. C'était les portes ouvertes de notre lycée, première journée. J'étais assez contre parce que je trouvais que le mélange, le fait de faire venir des gens dans le lycée, de l'extérieur, pouvait potentiellement nous mettre à risque, d'autant qu'il y avait eu la convention évangélique dans le Haut-Rhin. Et voilà, donc en tout cas, à 18h, comme mes collègues, j'ai accompagné les familles qui venaient découvrir le lycée, et je n'étais pas du tout en forme. Je suis revenu le lendemain comme c'était prévu. La deuxième journée des portes ouvertes, le samedi 7 mars, à midi, les portes ouvertes sont terminées. Moi, j'étais pas bien du tout. Et donc, j'ai appelé le lendemain, le 15, et on m'a dit que j'avais sans doute la grippe. Alors, j'ai dit, bon, donc, je peux retourner au travail lundi ou mardi. On m'a dit, non, surtout pas. Vous devez être en mesure de confinement parce que peut-être que c'est pas la grippe. Donc, on m'a dit, vous mettez en quatorzaine. Et puis, vous rappelez si ça se complique. Et puis, en fait, très rapidement, ça s'est encore compliqué. Et ma maman, qui est en Savoie, commence à se faire du souci. Donc, elle m'a dit, au bout d'un moment, il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que là, il y a quelque chose qui va pas. Donc, j'ai appelé mon médecin personnel qui est urgentiste dans les hôpitaux de Strasbourg, qui lui aussi commençait à se faire du souci. Et puis, j'ai pris la décision d'appeler les pompiers. Et à partir de là, je suis passé dans une autre dimension.
Le vendredi 14 mars, trois pompiers viennent chercher Patrick pour l'emmener à l'hôpital. À part l'appendicite quand il était petit, c'est une première pour lui. Quand il les regarde descendre de leur camion, il est surpris de voir qu'ils portent des combinaisons intégrales.
Moi, j'étais épuisé. Ils m'ont aidé à descendre. J'ai fermé l'appart. Et puis, de façon assez surprenante, il s'est trouvé que l'ambulance s'est passée devant le lycée, qui n'est pas très loin de mon domicile. Et j'ai vu certains de mes élèves par la fenêtre. Je trouvais la situation particulièrement cocasse. Comme il y avait un peu de circulation, ils ont décidé de prendre la voie de tram pour gagner du temps. Et puis, on est arrivé à l'hôpital civil de Strasbourg. Il y avait énormément de gens, donc il a fallu attendre pratiquement 3 heures. On m'a fait le prélèvement dans la narine, que j'ai trouvé particulièrement douloureux. J'ai insulté les pompiers parce que je ne pensais pas que ça faisait aussi mal. J'ai une carrure assez costaud, mais j'avoue que je suis assez douillé. Et une fois que ça a été fait, pratiquement 3 heures sont passées, on m'a fait rentrer dans l'hôpital. Les trois pompiers m'ont accompagné, il y avait aussi 3 policiers. J'ai compris qu'en fait, j'étais sous surveillance. On m'interdisait de toucher la moindre porte ou de parler à quelqu'un. Mais je me dis, bon, je suis entre de bonnes mains, entre de mains de professionnels, ils savent ce qu'ils font. Donc voilà. On m'a fait passer un scanner et ça s'est bien passé. On a vu qu'il y avait des taches blanches dans un de mes poumons. Et puis, on m'a mis dans une chambre. Je ne suis pas resté longtemps. C'est quelqu'un qui est venu me dire que j'étais positif. Et je me souviens avoir posé la question, mais positif à quoi? Je ne vois pas de quoi vous me parlez. On m'a dit, vous avez le coronavirus. Et là, c'est allé très, très vite. On m'a descendu en réanimation. Il y avait entre 7 et 6 médecins. Et c'est là où j'ai flippé vraiment, parce qu'on m'a dit, monsieur Dard, on va vous mettre dans un coma artificiel. J'ai pas eu le temps d'appeler ma famille, j'ai pas eu le temps d'appeler mes amis, et puis je savais que j'allais pas pouvoir lutter, que mes yeux allaient se fermer, et je me suis dit que peut-être que je vais jamais les rouvrir. Et je me souviens avoir regardé intensément les yeux bleus d'une des médecins qui était là, et je lui ai dit, vraiment, faites tout ce qu'il faut, mais il faut me sauver, je veux vivre, je vous fais confiance. Et puis je me suis endormi, et puis voilà.
Quand Patrick ouvre à nouveau les yeux, 5 jours sont passés.
J'ai découvert que ma chimie m'aidait à respirer, que j'avais des tuyaux, que j'avais plein de prises de sang, que j'étais fatigué, et que j'étais dans un monde que je ne connaissais pas, avec des infirmières qui couraient partout, des gens différents qui venaient me voir, s'inquiétaient pour moi, prenaient mes constantes, surveillaient mes constantes, reprenaient mes constantes. Je leur faisais confiance et je comprenais que voilà, j'étais revenu de loin. Le mercredi 18, à partir du moment où j'ai quitté la réanimation, on est venu m'emmener, des brancardistes sont venus me chercher. Et on m'a mis dans une chambre seule. Et là, j'ai pu appeler chez moi et ma mère était toute retournée, quoi. Elle revenait pas. Ce qui est particulier, c'est que ma maman n'a pas vécu la même aventure que moi, parce que moi, j'ai fait comme un gros dodo. Et elle m'a dit, on en a parlé il y a 2 jours, elle m'a dit que l'équipe médicale l'appelait tous les jours et qu'elle avait la possibilité de poser toutes les questions qu'elle a pu poser, des plus saugrenues aux plus difficiles, et qu'elle a pu le faire et que les réponses ont été franches, directes, très honnêtes. Je ne sais pas quel terme elle a utilisé, mais en tout cas, à un moment, elle a demandé si le pronostic vital était engagé, quoi. Et on lui a dit que oui. Puis elle avait compris que c'était pas gagné. Moi, j'ai vraiment compris il y a 2 jours. Elle m'a dit, t'as vraiment failli rester, quoi. Et puis elle a été super contente quand elle a eu ma... Quand je l'ai appelée, elle a crié de joie, quoi. Elle ne revenait pas. Je pense qu'elle était très contente de savoir qu'elle n'avait pas perdu son fils.
En sortant de son coma artificiel, Patrick découvre aussi une France en confinement qui ne l'était pas au moment où on l'a endormi.
Je l'ai appris par une de mes collègues. Et je trouvais que c'était une bonne chose. Ceci dit, quand on m'a ramené en ambulance cet après-midi, j'étais surpris du nombre de personnes qui se promenaient, qui faisaient du vélo, en famille ou seules. C'est hallucinant. Et ce qui est dingue, c'est que moi, on m'a sauvé la vie, les équipes médicales m'ont sauvé la vie. Et en fait, je comprends pas que les gens ne restent pas, ne suivent pas ces 2 simples conseils. Restez chez vous, lavez-vous les mains. Alors, je sais bien que chez soi, c'est pas forcément toujours évident. Tout le monde n'a pas un grand appartement, etc. Et que ça peut être sans doute compliqué. Mais de là à sortir, moi, je comprends pas. Je trouve que c'est un manque de respect abominable. Et j'imagine que si ces personnes qui sortent aujourd'hui devaient malheureusement attraper ce que j'ai attrapé, elles seraient bien contentes d'avoir face à elles ces gens extraordinaires qui mettent leur vie en danger. Moi, quand j'étais en réanimation, j'ai bien vu qu'il y avait du stress. Il y avait une infirmière qui m'a dit qu'elle ne rentrait plus chez elle parce qu'elle avait peur de contaminer son mari ou ses enfants. On était 30 patients en réanimation, il y a eu des décès. Et moi, je sais que le mercredi où je me suis réveillé, il y a un monsieur qui arrivait, qui était en grande détresse respiratoire. C'était apparemment très, très, très compliqué pour le plonger dans le coma. Donc ça s'agitait beaucoup et puis là, ce week-end, il y a eu quand même des décès parmi les médecins de la région Grand Est. On est dans une semaine critique. Là, c'est difficile. Moi, quand je suis sorti de l'hôpital tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait encore des tas de gens qui arrivaient. Donc, c'est loin d'être gagné, quoi. Donc, je ne comprends pas que les gens ne respectent pas. Restez chez vous et lavez-vous les mains.
Le 21 mars, Jean-Jacques Razafindranazi meurt. Il est le premier médecin à décéder du Covid-19. Cette nouvelle, ainsi que des témoignages de personnes ayant perdu des proches, lui fait réaliser un peu mieux ce à quoi il a échappé.
J'ai regardé dans ma chambre, c'est à vous, je crois, et il y avait une jeune femme qui avait perdu son papa et qui témoignait, et ça m'a beaucoup retourné. Et puis aussi dans 7 à 8, une jeune femme qui a perdu son papa de 70 ans, pareil, ils n'ont pas pu lui dire au revoir. Après, c'est sûr, quand il y a eu les différents médecins, ben, même chose, quoi. Et puis vous apprenez que c'est des gens qui auraient pu prendre leur retraite, mais qui ont décidé de ne pas la prendre, et qui ont décidé d'être là, et qui ont décidé de tenir coûte que coûte leur serment d'Hippocrate, et puis ils sont plus là. Et ce qui doit être terrible pour les familles, c'est qu'ils n'ont pas pu se dire au revoir, quoi. C'est pas comme quand vous perdez des fois quelqu'un et que vous avez entre guillemets le temps de, là il y a le temps de rien.
Mardi 24 mars, Patrick rentre chez lui. En 10 jours, il a perdu 6 kilos et a encore des séquelles. On l'a déjà prévenu qu'elles pourront durer et que pour être totalement sur pied, il lui faudra peut-être attendre 6 mois.
Tout à l'heure, j'avais du mal à marcher jusqu'à l'ambulance, j'ai pas voulu utiliser le brancard. Je suis très fatigué, le souffle revient bien, donc ça c'est bien. Et puis j'ai eu beaucoup, alors je m'excuse d'en parler, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de diarrhée, de terribles maux de ventre, il paraît que ça fait partie des symptômes, encore hier après-midi. Donc là, on m'a donné quelque chose à prendre, si ça devait se reproduire. Voilà, sinon, le moral est bon. Ça fait vraiment depuis 2-3 jours que je respire à peu près normalement. Ça a été très difficile. Je suis très, très, très fatigué. Je suis rentré chez moi cet après-midi vers aux alentours de 14h30. Donc, je suis HS. J'ai un arrêt de travail de 2 semaines. On m'interdit de corriger la moindre copie et de ne pas participer à la continuité pédagogique parce que je dois absolument me reposer, ce que je compte faire. On m'a dit que je pouvais être contagieux pendant 1 mois, que dans certains cas, il valait mieux, justement, moi, premier symptôme, le 6, Donc j'ai pas de raison de sortir puisque niveau nourriture ça va. Donc jusqu'au 6 avril et puis de toute façon je suis très très fatigué, j'ai un peu de mal à marcher donc je vais rester chez moi tranquillement quoi.
Comment ça se passe maintenant pour vous? Vous êtes suivi?
On me laisse pas dans la nature en fait. Alors j'ai pas encore eu le temps de regarder mais il semblerait que il y a un dispositif qui existe qui me permette d'appeler. Ou alors je vais être appelé. En tout cas, si moi j'ai le moindre symptôme ou la moindre question, je peux appeler, il y a un suivi. C'est rassurant de savoir que je ne suis pas laissé tout seul sur le bord du chemin. C'est même ça, c'est juste génial, quoi. Et on m'a dit vraiment, vous inquiétez pas, s'il y a le moindre souci, vous serez traité très rapidement. On ne vous laisse pas du tout tout seul.
Cette attention dont Patrick a bénéficié tout le temps de son hospitalisation et qu'il sent encore aujourd'hui est peut-être ce qui laisse le plus de traces. Et s'il témoigne, c'est avant tout pour rendre hommage au personnel soignant.
Je ne cherche pas du tout la lumière, on m'a sauvé la vie et j'ai pas de mots pour dire merci. Je suis prof de français et le mot que je veux utiliser, je ne le connais pas en fait. En sortant tout à l'heure, j'avais envie de prendre dans les bras notamment une des aides-soignantes qui a été super avec moi, qui a essayé de me faire rire. Et puis du coup, je me suis dit, je vais faire livrer... à peu près 40 pizzas, je le dis, vendredi, au service de réanimation, et puis où j'étais après, si ça peut les reconforter un petit peu, j'en serais ravi.
Une fois que le confinement sera terminé, quand vous pourrez ressortir, qu'est-ce que vous avez envie de faire en premier ?
C'est très bizarre, parce que j'ai jamais ressenti ça. Mais en fait, j'ai une terrible envie de mortadelle, de... tomates farcies et de brie. Et j'aime beaucoup les amis, les bonnes bouffes, etc. Donc ça sera de ce registre-là les premières grosses émotions de retour à la vie.
Merci à Patrick d'avoir accepté de témoigner auprès de Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiole.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hey, Prime members. You can listen to this show ad-free on Amazon Music. Download the Amazon Music app today.